Europe 1, circuit court. Un autre regard sur l'économie.
Et circuit court, c'est tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1. Une émission à suivre en vidéo sur Europe1.fr avec Anne Le Gall et Maxime Switek.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Quel est le programme du jour?
Et si on parlait des femmes au travail, elles représentent la moitié de la population active, mais 10% des postes de direction seulement. Comment faire en sorte que plus de femmes accèdent aux postes à responsabilité? C'est la question du jour dans circuit court. Nos invités, vous allez les entendre, tentent de faire exploser les plafonds de verre qui tentent encore, qui peuvent encore exister.
À deux autres rendez-vous dans Circuit Court, le portrait. Bonjour Cyrielle Ariel.
Bonjour Maxime Soutek, bonjour à
vous
tous.
Vous nous présentez aujourd'hui.
C'est un cinéaste, un humaniste, un militant écologiste, il s'appelle Yann Arthus Bertrand.
Et puis le coup de main, les mamies tricoteuses ont besoin de vous. Nous vous dirons tout à l'heure qui elles sont et comment vous pouvez les aider.
Et vous le savez, vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos messages sur le site europe1.fr ou encore sur Twitter avec le hashtag E1CC. Soyez les bienvenus dans Circuit Court.
Bonjour Minetoun Ndiaye.
Bonjour Maxime Switek.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes consultante, vous avez notamment travaillé dans l'assurance. Je suis allé voir votre profil sur LinkedIn. Et vous avez créé le réseau Énergie Femmes qui regroupe plus de 300 femmes qui discutent, qui s'entraident pour tenter de gravir les échelons de l'entreprise. Vous allez nous expliquer tout ça aujourd'hui.
Noémie Lemaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
bonjour,
psychiatre.
Maxime,
parlez bien dans le micro s'il vous plaît. Hop, voilà.
Bonjour Maxime, bonjour à tous
voilà.
Et à toutes.
Vous êtes psychiatre,
psychologue.
Psychologue du travail. Vous avez écrit « Libérez-vous des réflexes sexistes au travail » chez Duno. Vous allez nous raconter ce que sont encore en 2018 ces réflexes sexistes au travail.
Avant cela, une femme et quelle femme? Bonjour
ah,
Isabelle Saporta.
C'est gentil Maxime, bonjour. Ça
bonjour.
Me fait plaisir pour un lundi cet accueil là.
Quand on vous parle d'ambition féminine, que répondez-vous?
Ben moi je dis qu'il faut y aller, qu'il faut briser ce satané plafond de verre, qu'on a le droit à tout et même à plus encore. Mais vous voyez Maxime, ce terme là, ambition féminine, on reproche toujours à une femme son ambition, toujours. On la culpabilise, la première chose qu'on lui demande c'est « tu as des enfants ?» Mais il te voit assez tes enfants? Ah, il est malade? C'est ton mari qui l'emmène chez le pédiatre? Et oui, cette petite moue réprobatrice qui dit « Mais jamais il sera si bien qu'avec sa petite maman. » Pourtant, est-ce qu'on demande à un homme PDG s'il a des enfants, s'il les voit assez, s'il fait des gâteaux pour eux, s'il passe assez de temps en vacances, s'il s'occupe de les emmener chez le pédiatre? Jamais. Donc il est temps que ça change et j'attends vraiment de ce que vont nous dire nos invités aujourd'hui.
Et ben voilà,
ça y est,
lundi,
elle est énervée.
13h20, ça démarre bien. Petit détour par le dictionnaire avant de démarrer cette discussion, je suis allé voir ce que disait le Larousse à propos du mot ambition. Deux points, ouvrez les guillemets. Désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose, avoir l'ambition de réussir. Bon, ça, c'est le début de la définition, c'est après que ça se gâte. Désir ardent de gloire, d'honneur, de réussite sociale. Exemple, un homme dévoré d'ambition.
Et ben voilà.
Il
Et voilà.
y a deux choses intéressantes dans cette définition. D'abord, on voit que la définition d'ambition glisse assez vite vers quelque chose de négatif et surtout que l'homme n'est jamais très loin. Vous êtes une femme ambitieuse, Minetoun Ndiaye?
Bien sûr. Absolument. C'est l'ambition qui m'a conduit à aujourd'hui être manager dans un cabinet d'assurance. C'est l'ambition qui m'a conduit à quitter mon pays de naissance, qui était le Sénégal, pour venir faire mes études en France. Et c'est l'ambition qui me conduit aujourd'hui à créer ce réseau qui me tient vraiment à cœur et qui s'appelle justement Énergie Femmes.
Alors quand on va sur le site internet, c'est intéressant, sur votre site internet, vous donnez le ton tout de suite. Première phrase sur le site,
le
vous dites que c'est le réseau
des femmes
qui débordent d'ambition et d'énergie, les femmes qui en veulent. Vous dites clairement les choses.
Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer pour les femmes, pour la carrière des femmes et leur ambition. Et la première étape, c'est justement de les déculpabiliser sur cet aspect-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en mesure d'avoir un mari, des enfants, une carrière, de pouvoir tout mener de front et de faire ça justement en collaboration et en toute intelligence avec les hommes. Donc la première phase, c'est la raison pour laquelle nous avons aussi créé ce réseau, c'est d'accompagner les femmes à assumer leur ambition. Une fois qu'on l'assume, on pourra passer à l'action. On pourra faire des choses concrètes, on pourra voir toujours ce qui marche ou ce qui ne marche pas et ce qu'on peut améliorer. Mais la première phase, c'est d'abord de les déculpabiliser pour qu'elles soient entières, qu'elles soient elles-mêmes, avec leurs qualités, les défauts et surtout une énorme ambition pour elles-mêmes et pour ce pays.
Alors, qui sont ces femmes déculpabilisées et qui assument leur ambition et qui font partie de votre réseau?
Alors, ces femmes, elles viennent de tous les horizons. Et c'est la raison pour laquelle ce réseau marche très bien, c'est qu'on accueille vraiment toutes les femmes. Notre base, c'est d'avoir des femmes qui en veulent, qui sont déterminées, peu importe les accidents de parcours, peu importe qu'elles aient fait Sciences Po ou pas, ou qu'elles soient tout simplement en train de monter un business à côté. Nous avons la particularité d'accueillir toutes les femmes, peu importe les catégories sociales, les catégories socio-professionnelles et l'âge. Donc on se retrouve avec des membres qui ont 18 ans et d'autres qui en ont 70. Et ce qui fait l'intérêt de ce réseau justement est de pouvoir leur permettre d'échanger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de sujets dont on parle depuis peut-être 30 ou 40 ans. Mais pourquoi est-ce que sur ces sujets-là, on a l'impression par moment qu'on tourne en boucle, même s'il y a des avancées assez considérables? C'est peut-être parce qu'on ne partage pas forcément. Aujourd'hui, dans ce réseau, vous allez retrouver une cadre dirigeante qui va partager ses conseils en stratégie avec une jeune qui est en train de monter sa start-up. Et c'est l'intérêt de cette sororité, en quelque sorte, qui nous permet aussi d'avancer.
Alors, sororité, ça, c'est un mot qu'il faut expliquer parce que je suis pas sûr que ce soit un mot qui soit très... Enfin, que, comment dire, compris par tout le monde.
C'est sororité, c'est
ça, fraternité pour les mecs, pardon, sororité pour les femmes.
C'est exactement
le terme. Il y a un
peu
terme. De ça.
C'est exactement le terme. Et puis le terme sororité permet aussi de sortir d'un stéréotype assez clé qui consiste à dire que les femmes se tirent souvent dans les pattes, etc. Alors que là, nous sommes vraiment dans une dynamique où on est en train de faire chacune des choses assez concrètes, mais en même temps, on est en train de s'entraider et de rester dans la bienveillance. Ce qui nous permet chacune d'avancer dans nos projets professionnels, personnels ou autres, mais surtout de créer une réelle dynamique sur laquelle tout le monde pourra suivre et continuer en fait ses actions. Là. Et cet état d'esprit surtout.
Noémie Lemaine, je rappelle que vous êtes psychologue, vous aidez des femmes au travail, notamment des femmes. Vous en pensez quoi de ce genre de réseau? Est-ce qu'on est plus forte à plusieurs?
On est forcément plus forte à plusieurs et rejoindre un réseau de femmes, c'est un des axes importants et utiles et efficaces pour se développer et développer sa carrière. Parce que ça favorise la solidarité qui est effectivement pas toujours très évidente et ça apprend aux femmes aussi à se mettre plus en valeur, à parler en public, à avancer, chose qui n'est pas toujours évidente quand elles sont dans des populations mixtes dans lesquelles finalement les hommes colonisent assez facilement la parole.
Et forcément, que des femmes dans votre réseau?
Oui.
Minette Ndiaye.
Oui. Pour le moment, nous accueillons
je
toutes les femmes.
Je reste à la porte.
Non, alors...
Vous colonisez déjà la parole, vous voyez comme
ça. Ça démarche.
Vous êtes six dans ce sujet.
Il adore ce sujet, on le laisse.
Non, alors cette démarche s'explique d'abord par le fait que l'objectif de ce réseau, c'est aussi de permettre aux femmes d'assumer leur ambition et de libérer la parole. Donc quand on veut libérer une certaine parole et partager nos peurs, notre ambition, nos objectifs, c'est toujours beaucoup plus sain de le faire entre nous.
Pourquoi ?
Après, parce que ça permet de pouvoir se confier sur des peurs. Quand vous avez un groupe qui est réuni avec d'autres hommes, il y a un jugement, une crainte de jugement qu'on peut avoir. Alors que là, quand on fait nos afterwork par exemple, la dernière fois on avait traité le thème du leadership.
Afterwork, c'est un apéro après le boulot.
Exactement, voilà. C'est un événement.
On francise tout.
Exactement. Nous avions parlé de tout ce qui était en lien avec le leadership et le management. Et on se retrouve justement... Leadership.
Oui, pardon. Oui, non, mais j'ai pas... Ça fait rire, c'est rien à rien. Je vais pas le faire à chaque fois. Tant pis, j'en laisse passer.
Traduction.
Non, avec le leadership, donc tout ce qui est en lien avec une certaine légitimité qu'on peut avoir quand on occupe des fonctions de pouvoir ou des choses comme ça. Et lors de cet événement, on se retrouve avec beaucoup de femmes qui ont des fonctions de manager, mais qui avaient besoin de partager des peurs. Donc, dans ce cadre-là, si vous n'avez pas que des femmes et une ambiance assez bienveillante, c'est un tout petit peu compliqué de faire avancer le sujet et de pouvoir leur proposer des solutions concrètes.
Et qu'est-ce qui, dans votre histoire personnelle, vous a poussé à créer ce réseau? C'est quoi le déclic?
Le déclic est essentiellement venu de mon histoire. Donc moi, je suis née au Sénégal, où j'ai grandi avant de venir en France. Et quand je suis arrivée, l'objectif, c'était d'abord de faire mes études. Quand je suis rentrée dans la vie active, j'ai perçu à un moment le fait de ne pas avoir toutes les clés. Il y avait quelque chose qui me manquait au-delà de mes compétences, c'est-à-dire savoir bien faire mon travail, c'est une chose. Identifier qu'il faut aller à telle pause café, que quand on fait une réunion, il ne faut pas se laisser couper la parole ou des choses comme ça, ou de faire face à certains stéréotypes. C'était un tout petit peu compliqué, j'avais l'impression de ne pas avoir toutes les clés. Alors, où est-ce que je devais aller les chercher? Je ne savais pas non plus. Et j'ai eu la chance de rencontrer, lors de mon parcours, des femmes assez bienveillantes, telles que Frédéric Sintra, qui a créé une plateforme qui s'appelle Axiel, et d'autres femmes dans le monde de l'assurance qui ont su partager ces clés. Et c'est à ce moment-là que je me suis aussi dit qu'il fallait redonner en fait le change et créer des espaces de discussion pour qu'on puisse avancer ensemble.
Europe 1, circuit court.
Jusqu'à 14h, circuit court avec cette question aujourd'hui. Comment permettre aux femmes d'accéder aux postes à responsabilité avec Maxime Switek et Anne Le Gall.
On parle de l'ambition féminine en positif et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Minette Wendai, créatrice du réseau Énergie Femmes et Noémie Lemaine, psychologue du travail.
Vous avez écrit, Noémie Lemaine, libérez-vous de vos réflexes sexistes au travail. Cette phrase, cette injonction, elle s'adresse à qui?
Elle s'adresse à tout le monde en fait.
Hommes et femmes.
Elle s'adresse à tout le monde, hommes et femmes. Alors en priorité, j'ai envie de dire aux femmes, parce que on a intégré un certain nombre de stéréotypes du genre qui sont des croyances qui freinent. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes se freinent elles-mêmes. Elles peuvent, elles pourraient, et on peut toutes faire beaucoup mieux qu'on fait quand on se débarrasse des réflexes sexistes. Mais ça s'adresse aussi aux hommes, bien entendu, parce qu'on sera tous gagnants à se libérer. Et en termes de croissance, de nombreuses études le démontrent que quand les femmes sont libérées et évoluent dans les entreprises, la croissance des entreprises est meilleure.
Alors dans votre livre, vous mettez clairement les choses à plat. Vous dites que nous vivons dans une société qui a été historiquement dominée par les hommes. Est-ce que vous pouvez expliquer ça?
Vous le rappelez dès le début, ça?
Je le rappelle dès le début, je suis très claire là-dessus, parce que c'est la réalité. Parce que d'aussi loin que l'on recherche des traces écrites, on trouve ce lien de subordination entre la femme et l'homme. Et donc, il est inscrit depuis l'Antiquité jusqu'en 1970, en fait, où l'homme cesse d'être le chef de famille. Donc ça, c'est un schéma archaïque puissant qui est intégré dans nos têtes, dans la nôtre en tant que femme, d'être subordonnée aux hommes et dans celle des hommes, d'être les chefs en fait.
Et c'est ça qui explique encore aujourd'hui en 2018 le fameux plafond de verre.
Et c'est ça qui explique le fameux plafond de verre et ses conséquences. Enfin, c'est la raison principale. C'est la raison principale d'où découle un certain nombre de comportements et de réflexes.
Justement, je sais que j'ai pas l'air de vous couper, mais quand même, vous parlez dans votre livre, il y a deux expressions que j'aimerais que vous explicitiez aujourd'hui, des stéréobeaufs et de ringarbitude.
Oui.
Alors, stéréobeauf, qu'est-ce que c'est?
Oui, parce qu'en
fait, un seul mot, un stéréobeauf.
Oui, parce que stéréotype, stéréobeauf, parce que c'est ringard. Parce que ces comportements-là sont complètement ringards. Et moi, je connais beaucoup d'hommes qui ne sont pas du tout comme ça. Donc, faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les stéréobeaufs.
Ce sont les ringards, les ennemis.
Ce sont les ringards, les stéréobeaufs et les ringarbitudes. C'est-à-dire que...
Mais vous avez un exemple concret?
Oui, par exemple, la ringarbitude, ça va être les compliments systématiques. On l'a toutes eu. On arrive, on a préparé son dossier, on a travaillé beaucoup, on fait sa présentation et qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, elle est jolie ta petite robe. Combien de femmes ont entendu combien de femmes ont entendu le petit compliment sur ton joli petit sac, ta petite robe? Oh, t'es super. Oui, on aime bien les compliments, mais d'une manière appropriée, pas au moment où on est là, parce qu'on a travaillé, parce qu'on est en professionnel, parce qu'on a des choses importantes à dire et qu'on existe professionnellement. Et ces petits compliments-là, qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent la place des femmes. Ils indiquent, en fait, je te remets à ta place
T'es là pour faire joli.
Voilà, c'est ça. Plaisir,
ouais. Eh bien, il est parfois utile de regarder en arrière pour mesurer les progrès accomplis et repérer les blocages. On vous propose d'écouter cet archive d'Europe 1. C'est un extrait de l'émission Bonjour Monsieur le Maire. Nous sommes en 1965. Après les municipales dans la commune de Brigelles, dans la Vienne, deux femmes sont élues après s'être présentées sur une liste exclusivement féminine. C'est une première. Écoutez bien ces questions du journaliste Pierre Bonte et les réponses de la pharmacienne du village nouvellement élue. On vous fait réagir juste après.
Pourquoi les femmes de Brigueille avaient-elles jugé utile de former une liste? Eh bien, c'est ce que Claude Bobin a demandé à Madame Pécaud, la pharmacienne.
Eh bien, parce que je pense que les femmes doivent être représentées au conseil municipal, étant donné qu'elles ont le droit de vote. Parce que dans certaines choses, les femmes ont plus d'idées que les messieurs.
Dans quel domaine?
Par exemple, dans le domaine familial, dans le domaine de la perfection des habitations, la modernisation intérieure, pour l'installation des écoles, par exemple.
Les femmes se présentent assez rarement en France aux élections.
Elles se présentent assez rarement parce qu'elles n'osent pas se présenter. On a peur que les messieurs se moquent, on a peur que les gens se fassent des réflexions, peur de ne pas être capable. Je pense que c'est tout à fait injustifié.
Est-ce que vous pensez qu'une femme a le temps de se consacrer à la mairie, si elle est mariée, si elle a des enfants, si elle a un intérieur à tenir? Est-ce que vous pensez qu'elle pourra aller aux réunions du conseil municipal le soir, etc.?
Le soir, oui, je crois que c'est possible. Et puis en général, son mari, il est toujours là le soir.
Alors le mari à la maison gardant les enfants et la femme à la mairie?
Pourquoi pas? Pour une fois ou deux dans un mois, vous savez, il peut bien faire ça, entre nous soit dit.
Voilà, on entend que ce document de 1965 est un peu daté. Et puis, il y a quand même des clichés qui restent toujours aujourd'hui, notamment sur la valeur ajoutée des femmes. Comment vous réagissez à ça, Noémie Le Maine ?
Bah, moi, je trouve qu'il est très, très caractéristique, effectivement, d'une époque. Mais encore, on repère des choses aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit, cette dame ? Cette dame, elle dit que le devoir et la place et les compétences des femmes se situent sur le champ de la famille, du domestique, mmh. de l'intérieur, de la déco intérieure. Mmh. C'est ça, sa compétence. Donc, c'est difficile d'en sortir. Elle le dit et on a peur de pas être capable. En fait, le sujet est bien résumé. Les femmes ont intégré cette peur de ne pas être capable parce qu'elles ont une carence narcissique qui est réelle et qui est construite par toutes ces années-là qui font qu'elles ont peur de ne pas être capable, d'autant plus qu'on leur a attribué un champ de compétences donné et que quand on est quelqu'un de devoir, eh ben on reste sur le champ de compétences qu'on vous a donné.
Et vous dites qu'elles sont touchées par un certain nombre de syndromes, alors vous les listez, le syndrome de la bonne élève, de la bonne fille, de la bonne épouse, le syndrome de la bonne mère. Oui. Est-ce que vous arrivez à résumer tous ces syndromes-là ?
Oui, je l'ai un peu résumé d'une manière un petit peu lapidaire par le syndrome de la boniche.
C'est ça.
Hein, c'est-à-dire, c'est une manière un petit peu provocante, mais c'est-à-dire, c'est de dire aux femmes que, oui, il n'est pas honteux de faire les travaux domestiques, mais on est capable de faire autre chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dévouer, voire s'immoler sur l'autel de la boniche pour obtenir de la reconnaissance sociale et démontrer qu'on est une femme de devoir.
Mais on a quand même un petit peu progressé depuis 1965. Minetou Ndiaye, comment vous réagissez aux documents là, qu'on vient d'entendre ?
Alors, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il y a des questions qui reviennent jusqu'à présent, malheureusement. Qui va garder les enfants ? Qu'est-ce qui va se passer à la maison, etc. Mais je retiens surtout un point assez structurel en lien avec la peur de l'intervenante. Elle a peur d'oser, elle a peur d'essayer, elle a peur qu'on se moque d'elle. Et je pense que, au-delà des évolutions quand même assez considérables qu'on a eues, puisque les femmes travaillent maintenant, elles osent un tout petit peu plus, c'est surtout sur ce point-là qu'il faut également faire un focus pour être en mesure de les accompagner chacune à avoir un peu plus d'audace, ne serait-ce qu'au quotidien, sur des petites actions. Et c'est ce travail de masse que justement nous essayons de faire dans le réseau.
Europe 1, circuit court.
Jusqu'à 14h, circuit court, c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall.
Une émission consacrée à l'ambition féminine. Aujourd'hui, nos invités, Minetou Ndiaye, créatrice du réseau Énergie Femmes, et Noémie Le Maine, psychologue du travail.
Isabelle Saporta, convaincue ou pas ? Oui, vous êtes convaincue par les invités du jour.
Oui, puis alors en plus, je sais que vous n'êtes pas un stéréo beauf parce que Maxime, vous ne faites jamais aucun compliment aux femmes, donc je suis quand même hyper contente.
Alors, mais du coup, c'est un reproche.
Vous ne mettez jamais drôle non plus.
Non. Disons que la solidarité féminine, on avait dit à Anne Le Gall que ça n'était pas un fantasme masculin. On rêve ! Anne !
Mais vous êtes très bien habillée quand même.
Je vous jure, enfin bon, chers auditeurs, voyez ce que
Isabelle,
c'est que la solidarité féminine.
Alors attendez, vous allez pouvoir parler dans un instant, mais je prends comme un compliment le fait que vous me disiez
vous n'êtes pas un stéréo.
Pas de compliment.
Voilà, et vous êtes parfait, en fait. J'ai envie de vous dire, Maxime, vous êtes parfait. Bon, puisqu'on a, j'ai bien dit tout le bien que je pensais de mes patrons, je vais faire mon petit billet, parce que malgré tout, je suis un peu payée pour ça quand même. Et donc voilà. Donc en fait, non, je voulais revenir sur l'actualité du moment, c'est-à-dire ce qu'avait dit la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes, ce qui prouve quand même qu'il y en a besoin d'une secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes et que la chose ne va pas de soi en France, et qui voulait faire comme en Allemagne, où en Allemagne, une loi vient de passer en disant, finalement, puisqu'il y a une égalité de salaire, bientôt les salariés pourront savoir ce que gagnent les hommes. Et ça, je trouve que ça recoupe ce que vous disiez toutes les deux, c'est-à-dire que finalement, nous n'osons pas, nous avons comme intégré la domination masculine, et du coup, nous n'osons même pas demander le même salaire. Et je pense que cette loi est très intéressante, si ce n'est que, j'ai vu qu'elle ne s'adressait finalement qu'aux entreprise de plus de 200 personnes, qu'il fallait qu'il y ait au moins 6 mecs qui aient le même poste que nous pour qu'on ose avoir, enfin, qu'on puisse savoir ce que gagne le garçon. Je voudrais savoir, enfin, l'homme, je voudrais savoir ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous pensez qu'on aurait besoin d'une telle loi en France ? Est-ce que vous pensez que, voilà, on a entre 12 et 27% d'écart de salaire en France ? Est-ce que ce genre de loi pourrait être intéressante ?
Alors, je pense que d'un point de vue législatif, on a déjà beaucoup de lois qui sont qui ont été créées. Non, qui ne sont pas appliquées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien. Au contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, au lieu de rajouter un millefeuille de législation, il faudrait juste penser déjà à faire appliquer celles qui existent, aussi bien en termes de transparence qu'en termes de quotas ou de choses qui sont déjà imposées à certaines entreprises. Et à la limite, pourquoi ne pas les généraliser ? C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, comme le cas de l'Allemagne, qui peut être intéressant. Mais si on rajoute des restrictions, c'est-à-dire dire il faut qu'il y ait X personnes, il faut qu'il y ait X pourcent de chiffre d'affaires, des choses comme ça. Effectivement, à un moment, on arrive à un filtre. Mais pourquoi ne pas juste penser à appliquer ce qui existe actuellement de façon transparente dans toutes les entreprises? Ça, ça peut être un premier palier. Ensuite, nous, pour notre part, du côté d'Énergie Femmes, nous travaillons également sur un deuxième aspect qui est d'apprendre aux femmes à savoir parler d'argent de façon décomplexée. C'est-à-dire que peu importe aujourd'hui les lois, les mesures qui sont appliquées dans les entreprises et la transparence qui est faite, si vous n'osez pas aller toquer à la porte de votre patron pour lui dire que vous voulez une augmentation d'une année sur l'autre, il ne faut pas non plus revenir se plaindre en disant « je trouve que c'est pas très transparent ». On ne peut pas se plaindre de choses qu'on n'a pas demandées.
Et alors ça rejoint ce que vous écrivez dans votre livre « Noémie Le Maine ». Vous dites aux femmes « affrontez vos peurs et osez transgresser ». Entre guillemets.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes acceptent et fassent un travail sur elles pour sortir de cette passivité qui finalement les contraint et les rend complètement complices d'un système qui ne les met pas en valeur. Donc moi je dis aux femmes en clair, vous avez autant de talent que les autres, les filles, faut y aller quoi. Allez-y, osez, n'ayez pas peur de transgresser. Ce que les autres vont dire, ce que les autres pensent, on s'en fiche. Les autres, ils pensent ce qu'ils peuvent penser. Donc il faut y aller et puis il faut oser aussi avoir des échecs. Bien sûr que en allant demander une augmentation à son patron, on n'en a pas une à chaque fois. Et alors? Eh bien, on va apprendre, on apprend, on se fait peut-être aider, on avance. Bah, et on peut se faire. Alors, moi, ça fait partie aussi de mon métier, ce genre de choses, d'accompagner les gens, hein, puisque je suis psychologue et coach. J'ai accompagné plus de 450 personnes pour aider à se développer. Demander une augmentation, je dirais que même, c'est un faux problème, parce que quand on se développe, quand on monte en progression, quand on prend la parole, quand on développe ses initiatives, quand on lance des projets, finalement, elles arrivent quand même assez facilement. Enfin, bien sûr, il faut quand même monter au créneau, etc. Mais le plus important, c'est de se développer. C'est de se développer soi-même. C'est d'avancer et d'affronter, effectivement, toutes ces peurs, cette passivité, cette humilité. Les femmes, le problème, c'est qu'elles n'osent pas avancer parce que la féminité archaïque est basée sur des schémas qui sont liés à la discrétion et puis à l'humilité, qui ne sont pas des comportements qui favorisent le succès.
Noémie Le Maine, vous parlez dans votre livre, et on en terminera là, des « big bugs ».
Oui, parce qu'en fait, on a tous et toutes, parce qu'on est équipé du même cerveau avec son même fonctionnement, des mécanismes de pensée automatiques provoqués par un certain nombre de choses qui nous font résonner de travers. Alors notamment le grand Big Bug, c'est de dire les hommes et les femmes, ils peuvent pas être égaux puisqu'ils sont différents. Ben, ça n'a pas de rapport. On peut avoir la même valeur et les mêmes potentiels et les mêmes capacités en étant différents. C'est un amalgame et c'est une erreur de raisonnement. Alors, mon hypothèse, à moi, une de mes hypothèses, c'est de dire qu'en fait, cette erreur de raisonnement, elle est renforcée constamment par l'éducation. Notamment quand on dit aux enfants que le signe égal est l'opposé du signe différent. Plutôt que de dire que différent, c'est ce signe-là est inégal, on dit qu'il est différent. Donc, on envoie quoi à notre cerveau? Que ben, l'opposé d'égal, c'est différent.
Je savais bien qu'il y avait un problème avec les cours de maths. Ça, c'était
voilà.
Sûr.
Par conséquent, on nous a conditionnés à cette erreur de raisonnement qui nous fait dire qu'on ne peut pas être égaux et différents.
Un dernier mot, Mintou Ndiaye. L'ambition féminine, c'est aussi une question de mental?
Je pense que c'est beaucoup une question de mental et puis une question d'oser en fait, de mental, d'audace et d'accepter que ça ne marche pas tout le temps. Hein. On n'a pas dit que c'était une formule gagnante, mais il faut juste être dans cette logique, se dire aujourd'hui il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais maintenant allez les filles, allez mesdames, on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend, on tombe, on se relève, on continue. Et c'est ça en fait qu'on a envie d'inculquer comme dynamique aux femmes en 2018.
Europe 1, circuit court.
Jusqu'à 14h, circuit court sur Europe 1, c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall.
Le portrait.
Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un cinéaste militant qui, dans son dernier film, défend la cause des femmes dans le monde. Il s'agit de Yann Arthus-Bertrand.
Eh bien oui, aujourd'hui, à 70 ans, après plus d'un demi-siècle dans l'écologie, Yann Arthus-Bertrand et ses équipes travaillent actuellement sur un nouveau documentaire dédié aux femmes, Woman. C'est la suite naturelle de Human, vous savez, le film qui est sorti en 2015, qui montrait des centaines de portraits émouvants de citoyens du monde. Le tournage de Woman a débuté il y a un an, il reste encore une année de tournage. Le but, c'est d'aller filmer des femmes dans une cinquantaine de pays à travers le monde et faire à peu près 3000 interviews avec l'objectif d'être à
Cannes en 2019. Et si Yann Arthus-Bertrand a choisi de mettre en lumière la beauté de la diversité de ces femmes dans le monde, c'est parce qu'il croit qu'elles portent les solutions des fléaux de notre monde, d'un monde meilleur.
Je pense que dans le monde de demain, qui est un monde compliqué, difficile, on est un peu perdu devant ce monde d'épuisement des ressources, de changement climatique, de réfugiés, de son angoisse de perdre de l'emploi. C'est un monde difficile qui vient demain. Eh bien, je pense que les femmes sont certainement une des solutions. La solution, le bon sens, cet amour qu'elles ont en elles, prêtes à donner et à partager. Alors, c'est-à-dire, il y a beaucoup de naïveté et d'utopie là-dedans, mais j'ai envie d'y croire. Parce qu'en fin de compte, je vois pas beaucoup d'autres solutions que celle-là, voilà, pour le monde de demain.
Et alors, d'où est venue l'idée à Yann Arthus-Bertrand de faire un film sur les femmes?
Eh bien, justement, quand on parle avec lui, on sent tout de suite l'émotion monter quand il parle de sa mère. Il avoue avoir été un enfant difficile, voire même épouvantable. Et c'est suite à une discussion avec son père qu'il a réalisé beaucoup de choses sur les femmes, et notamment sur sa mère.
Un jour, mon père me dit, tu sais, quand t'es parti, ta mère, elle a pleuré tous les soirs dans son lit. Et pendant 6 mois, j'avais 17 ans, je ne donnais aucune nouvelle à mes parents. Un jour, j'ai voir ma mère qui était à la fin de sa vie sur son lit. Et j'arrive, je me mets à pleurer et je lui dis « je voudrais m'excuser pour tout ce que je t'ai fait endurer ». Ma mère, elle éclate de rire et elle me dit « tu sais, on pardonne tout à ses enfants ». Ça m'a fait un bien. Et aujourd'hui, en écoutant toutes ces interviews de femmes, tu aperçois bien que, en fin de compte, pour la femme, c'est que la famille. Il y a la famille qui tient et c'est ça qui les fait vivre, c'est ça qui leur donne ce courage incroyable. Et je pense que les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes.
Et oui, et d'ailleurs, comme le dit Yann Arthus-Bertrand, être une femme dans ce monde d'hommes et de violence, ce n'est pas quelque chose de facile. Et il vous lance un appel, vous, toutes les auditrices qui vous nous écoutez, si vous voulez partager vos expériences de femme, de mère, d'épouse ou de citoyenne, Yann attend votre mail at woman@hopeprod.com.
Merci Cyrielle Ariel.
Europe 1, circuit court.
Le coup de main aujourd'hui, il est pour une mamie tricoteuse. Bonjour Morissette Hennevin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous appartenez aux mamies tricoteuses de l'Amicale Laïque de Marly-les-Valenciennes. On avait très envie de parler de vous. Marly-les-Valenciennes, c'est dans le Nord. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer en deux mots ce que font les mamies tricoteuses?
Eh bien, elles fabriquent de la layette pour les prématurés du centre de néonatologie de Valenciennes. On avait vu un article nous indiquant qu'il manquait de couverture et de layettes pour ces bébés, puisque ça n'existe pas dans le commerce. Donc on a créé nos propres produits, les propres modèles, en accord avec la maternité, bien entendu, et on leur a fourni cette année environ 1000 pièces.
1000 pièces cette année?
Oui. En plus, on a une action en direction des Restaurants du Cœur et de SOS Bébé, qui est une association créée par le docteur Bécard à Valenciennes pour aider les familles en difficulté. Et c'est pareil, sur l'ensemble de l'année, on a envoyé à chacune de ces associations environ 400 à 500 pièces.
Et comment les auditeurs de Circuit Court peuvent vous aider? Vous avez besoin de pelotes, de mains tricoteuses?
De pelotes, principalement. Les besoins, on les connaît. Tricoteuse, j'en ai 20 à mon atelier à Marly, mais suite aux différents appels qu'il y a eu par voie de presse et de télévision, on a d'autres ateliers qui travaillent pour nous et qui se sont créés un peu partout.
Donc vous avez besoin de pelotes aujourd'hui donc? Et de combien de pelotes et de quel type de pelotes?
Alors, de la laine tout acrylique, enfin du fil à tricoter tout acrylique, relativement fin, donc à travailler avec du 2,5-3.
C'est précis,
c'est technique.
Et alors, ce qui nous ferait plaisir, c'est surtout d'avoir, par exemple, des quantités du même coloris ou de coloris qui s'assortissent, parce que pour une couverture, il nous faut 8 pelotes. Et on peut très bien faire un travail rayé, mais il faut que ça soit la même qualité de laine.
Et on vous les envoie où, ces pelotes?
À la mairie de Marly. Ce sont eux qui réceptionnent la plupart de nos colis.
Et bien voilà, à la mairie de Marly-les-Valenciennes. On était ravis de parler de vous et des mamies tricoteuses aujourd'hui. Merci Morissette Hennevin d'avoir été en direct avec nous.
Les initiatives qui font avancer, on partage tout cela avec vous dans le circuit court. Et demain, nous vous ferons découvrir ce qu'est l'éco-conception.
Merci Anne.